Vous écoutez RTL.
Tout de suite, un géant de la science dans la curiosité. On vous raconte le destin incroyable de Stephen Hawking, cet astrophysicien anglais mort ce matin à l'âge de 76 ans. On est avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace à Toulouse. Vous êtes avec nous en direct du bureau RTL de Marseille. Bonjour. Stephen Hawking, c'était une superstar de la science, on peut dire ça?
Oui, une superstar, mais c'est aussi quelqu'un qui a apporté des découvertes théoriques fondamentales pour la compréhension de l'univers.
Question volontairement provocatrice, iconoclaste, parce que c'était une icône, Stephen Hawking. Est-ce que cette notoriété planétaire était aussi liée, en partie en tout cas, à sa maladie, à cette maladie de Charcot qui le clouait dans un fauteuil roulant?
Oh, la question n'est pas si iconoclaste que ça, puisque certains confrères, pas forcément bien intentionnés, avaient l'air de dire que son statut de superstar était dû en partie, voire même en presque totalité, à cette maladie. Mais honnêtement, quand on voit la force des travaux théoriques qu'il a fait, on ne peut pas dire que c'est sa maladie qui l'a rendu célèbre. Peut-être que ça a été un élément pour le pousser plus en avant, pour en donner une image, comme vous dites, icône, celle du cerveau pensant par opposition à un corps. Mais clairement, ses travaux sont fondamentaux.
Stephen Hawking, c'est une star, un film a raconté sa vie, il était caricaturé dans la série The Big Bang Theory et dans les Simpsons aussi, on vous raconte ce destin incroyable sur RTL.
Everyone listens when artists are talking.
Because artists are smarter than Mr. Stephen Hawking.
Oh yeah, break it down for me, fellas. Big deal.
Et c'est la voix de Stephen Hawking.
C'est une star des Simpsons.
The world's smartest man.
La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Une nouvelle fois, grâce à vous, RTL se classe première radio de France sur tous les indicateurs et réalise sa meilleure année depuis 10 ans.
Merci à vous et aux 6 500 000 auditeurs qui font chaque jour le succès de RTL.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Merci.
RTL, première radio de France.
Un esprit d'équipe, ça s'entend tout de suite.
Cosmologiste.
C'est quoi ça?
J'étudie le mariage de l'espace et du temps.
La curiosité est un vilain défaut.
Et si j'inversais le temps pour savoir ce qui a pu se passer au commencement?
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Cette histoire de trou noir au début du temps. Bravo, docteur.
Je m'appelle Stephen Hawking. Aussi terrible soit la vie, s'il y a de la vie, il y a de l'espoir.
Bienvenue sur RTL, les curieux.
Stephen Hawking, star de cinéma, le film sorti en 2014 qui raconte son histoire a même valu à Eddie Redmayne, le comédien qui a incarné Hawking, pardon, l'Oscar du meilleur acteur. On est toujours avec Olivier Sanguy, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. Stephen Hawking vient de mourir à l'âge de 76 ans. Il vivait où? Est-ce qu'il travaillait encore?
Alors, officiellement, il n'occupait plus son poste à l'université de Cambridge, mais il travaillait encore et notamment, il soutenait des causes de recherche qu'il estimait intéressantes, pertinentes. Par exemple, récemment, il avait apporté son immense, on va dire, notoriété à un projet d'un milliardaire russe, Yuri Milner, qui consiste à arriver dans quelques décennies à mettre au point une sonde qui pourrait explorer le système stellaire le plus proche de notre planète, c'est-à-dire le système stellaire de Proxima Centauri. Mais c'est à 4 années-lumière, c'est-à-dire que les sondes qu'on fait mettraient des dizaines de milliers d'années à y parvenir. Et là, l'idée, c'est d'arriver à faire le voyage en quelques décennies.
Alors, Stephen Hawking est né le 8 juillet 1942 à Oxford. Dans quel milieu familial ?
Un milieu familial, on va dire, tout à fait moyen, mais en revanche assez fantasque. Hein. Ses parents avaient l'originalité de vivre pas comme les autres, on va dire. Par exemple, son père, il y a une anecdote, il refusait d'acheter une voiture un peu coûteuse, donc il avait réhabilité un vieux taxi londonien. Il était un peu, sa famille était un peu la risée de son entourage, mais après tout, ça lui a donné une richesse.
Olivier Sanguy, c'était un bon élève, Stephen Hawking, ou il s'ennuyait plutôt à l'école?
Non. Voilà, plutôt c'était un élève qui s'ennuyait, c'est le terme. Bon, il y a certains de ses professeurs plus tard, notamment lors de sa thèse, qui ont reconnu avoir eu l'intelligence de comprendre qu'il s'adressait à quelqu'un de plus intelligent qu'eux.
Olivier Sanguy et Stephen Hawking entrent à la prestigieuse université d'Oxford. Est-ce qu'il va tout de suite éblouir ses profs?
Non, pas vraiment. Bon, alors, c'est pas un mauvais élève, parce que quand vous entrez à Oxford, vous n'êtes pas un mauvais élève. Il faut pas non plus grossir le trait. Mais c'est surtout plus tard, quand il va rentrer à Cambridge et qu'il va faire ses travaux théoriques, notamment sur les trous noirs, qu'il va vraiment montrer l'étendue de son talent.
Alors il va obtenir effectivement son diplôme mention très bien, donc ça va pour quelqu'un qui était un peu dilettante. Je crois qu'il faisait beaucoup d'aviron, il passait beaucoup de temps sur l'eau, mais ça c'était avant sa maladie. Olivier Sanguy, comment découvre-t-il sa maladie et que lui prédisent les médecins?
Mais il découvre sa maladie par des petits gestes en apparence anodins, c'est-à-dire difficulté de tenir un stylo, perte d'équilibre. Et là, on lui apprend cette nouvelle terrible, à savoir que cette maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative qui atteint les centres moteurs. Oui. Alors, l'intelligence n'est pas touchée, comme on a pu le voir, mais on maîtrise plus ses muscles jusqu'à la paralysie totale. Et à l'époque, on lui dit qu'en gros, il a 2-3 ans à vivre.
Et pourtant, il va les faire mentir en vivant jusqu'à l'âge de 76 ans, notamment grâce à sa femme, Jane Wilde. Pourquoi cette rencontre, c'est une bascule essentielle dans la vie de Stephen Hawking ?
C'est une bascule parce que je pense, comme il le reconnaît, lui, et comme l'a écrit d'ailleurs son épouse dans un livre, à partir duquel a été fait d'ailleurs le film n'est pas fait d'après les écrits de Stephen Hawking, il est fait d'après les écrits de son ex-épouse. Elle l'a soutenu.
Comment Stephen Hawking est-il devenu riche et célèbre ? C'est ce qu'on vous raconte tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
On m'a appris que la lumière des galaxies lointaines virait au rouge, ce qui voulait dire qu'elle s'éloignait de nous et que l'univers était en expansion, mais je ne le croyais pas.
RTL.
Si on remonte dans le temps, on arrive à une singularité de type Big Bang, où les lois de la physique s'anéantissent.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Si ma proposition d'un univers sans frontières est exacte, Dieu n'a eu aucune liberté pour choisir la façon dont l'univers a commencé.
On est bien entre curieux sur RTL.
Stephen Hawking souffrait depuis l'âge de 21 ans de la maladie de Charcot. Il se déplaçait en fauteuil roulant et parlait grâce à un ordinateur malgré son handicap. Il est devenu l'un des plus grands scientifiques de l'histoire et chacun de ses passages en France faisait l'événement. Par exemple, le 7 mai 2006, écoutez un extrait du reportage réalisé par Thomas Proutot à l'époque.
Affluence inhabituelle hier devant l'auditorium de la Grande Bibliothèque. À l'approche de la conférence de Stephen Hawking, les fans rivalisent de superlatifs.
C'est le niveau le plus élevé d'intelligence et de connaissance sur l'univers.
Mener les travaux dans l'état où il est, c'est vraiment une belle preuve de courage et d'une leçon de vie. C'est une occasion unique. Je l'aurais raté ça pour rien au monde.
Ah bah, c'est impressionnant, c'est très particulier et je suis très émue parce que c'est en lisant ces livres que j'ai voulu faire de la physique, donc j'ai rencontré mon idole.
Olivier Sanguy, vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. En quoi les conférences de Stephen Hawking étaient absolument exceptionnelles ?
Elles étaient exceptionnelles parce que c'est un homme qui faisait une recherche extrêmement complexe et comme dans son livre, il arrivait à l'expliquer. Parce que c'est quand même pointu, hein. On parle de physique quantique, on parle de théorie de la relativité et d'arriver à les faire travailler ensemble. Parce qu'il faut savoir que le modèle théorique de la physique quantique fonctionne très bien, le modèle théorique de la théorie de la relativité fonctionne aussi très bien, mais dès qu'on veut les relier, eh bien ça ne marche plus. Hein. La physique quantique, c'est l'infiniment petit, la relativité, c'est l'infiniment grand, et elles ne se rencontrent pas mathématiquement. D'ailleurs, Stephen Hawking a voulu les unifier, il n'y est pas parvenu, mais il n'a pas été loin par moments, notamment avec ses travaux sur les trous noirs.
Alors ce livre auquel vous faites référence, Olivier Sanguy, c'est La brève histoire du temps, sorti en 88, 10 millions d'exemplaires, vendu 35 langues, 237 semaines consécutives en tête du classement des meilleures ventes publié par le Sunday Times en Angleterre. Vous l'avez lu forcément ce livre. Est-ce qu'il est c'est quoi ses caractéristiques? Est-ce que c'est très dur à lire? Est-ce que c'est drôle? Qu'est-ce qu'on trouve de Stephen Hawking là-dedans, de sa personnalité?
Ce qui est exceptionnel, c'est que c'est fluide. C'est-à-dire que ça ne se lit pas comme un livre de science rébarbatif. Il y a une histoire qui est racontée. D'ailleurs, ça s'appelle Une brève histoire du temps. Et il arrive à rendre intelligibles des concepts qui normalement sont extrêmement compliqués. Et il y a de l'humour. Moi, je me rappelle quand je l'ai lu la première fois, j'ai éclaté de rire parce que dans une page, mon éditeur m'a dit qu'à chaque équation que je mettrai dans ce livre, je diviserai les ventes. Et il dit, bon, ça va, je mets une équation et c'était bien sûr E égale MC2.
Donc il avait le sens de l'humour. On va en parler, tiens, avec quelqu'un qui connaissait bien Stephen Hawking. C'est Thibaut Damour, physicien français. Il est avec nous en direct au téléphone. C'était votre ami, je crois qu'il venait chez vous quand il passait à Paris, c'est ça ? Bonjour Thibaut Damour.
Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'avais le plaisir que Stephen passer des week-ends chez nous à la campagne quand il passait dans la région parisienne. C'était... Il donnait l'occasion de lui poser quelques questions et surtout de partager du temps avec lui.
Alors, on parlait de son sens de l'humour. Est-ce que c'est la première caractéristique qui vous vient à l'esprit ?
Sa chaleur, oui, et son sens de l'humour. Dans les repas, une fois que vous faisiez abstraction du fait que, comme il avait un handicap physique sévère, il avait une façon de manger un peu particulière, c'est-à-dire la moitié de ce qu'il mangeait retombait immédiatement. Mais il avait toujours son petit sourire, son œil coquin, et des plaisanteries, de l'humour, et une conversation qui tournait sur tous les sujets, la musique, l'art, la science.
Quels étaient justement ses sujets de conversation préférés autour de la science avec vous, Thibaud Amour ?
En général, bon, je vais poser quelques questions sur la physique quantique pour comprendre l'interprétation, parce que ce sur quoi il travaillait, je connaissais, parce qu'il publiait toujours des articles, donc je n'avais pas besoin de l'interroger sur son dernier travail scientifique. Mais en revanche, je lui ai posé des questions sur est-ce qu'il était d'accord avec l'interprétation, disons, d'Everett du monde quantique ou telle autre interprétation. Comment concevoir la réalité quantique ?
Merci beaucoup. Merci Thibaud Amour. Je rappelle que vous êtes physicien, professeur à l'Institut des hautes études scientifiques et membre de l'Académie des sciences. Merci de ce témoignage sur RTL.
La curiosité continue sur RTL. Stephen Hawking n'a pas fini de nous surprendre, notamment quand il quitte sa femme pour son infirmière. Bah oui.
RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Stephen Hawking est mort ce matin à l'âge de 76 ans. C'est l'un des astrophysiciens les plus brillants qui disparaît. Une star de la science. Christophe Galfard, son élève et ami, parle même de rockstar. Écoutez.
Comment l'univers a-t-il commencé ? Eh bien, Hawking a été le premier à proposer un modèle mathématique d'état initial de l'univers. Ça peut paraître philosophique comme ça, mais ça a ouvert un champ extraordinaire de recherche sur l'origine même de notre univers. Quand j'étais avec lui en voyage et qu'il donnait des conférences, des centaines de gens dormaient la veille au soir devant le lieu de la conférence pour être sûr d'avoir une place le lendemain. Donc c'est vraiment l'idée d'une rockstar de science.
Olivier Sanguy, vous êtes toujours avec nous en direct depuis Marseille. Je rappelle que vous êtes médiateur scientifique à la Cité de l'Espace de Toulouse. Stephen Hawking, qui s'intéressait évidemment à la conquête spatiale, quel défi avait-il lancé, tiens, notamment à Christophe Galfard ?
Un défi, je ne sais pas le défi qu'il a lancé à Christophe Galfard, mais son idée, c'était que l'humanité, pour survivre, devait aller au-delà de la Terre et même au-delà du système solaire. Pour lui, c'était très clair, il n'y avait pas d'avenir à long terme pour l'humanité en restant uniquement sur Terre. C'est là qu'on voit d'ailleurs sa pensée très particulière. Ce n'est pas quelqu'un qui pensait à l'horizon de sa vie, il pensait en siècles, en millénaires et même en millions d'années.
Oui, et le défi, Christophe Galfard était venu nous le raconter ici même sur RTL dans la curiosité, c'était de trouver sur Terre aujourd'hui tous les chercheurs, tous les scientifiques qui justement préparent déjà cette colonisation de l'espace. Et c'était assez bluffant.
L'une de ces marottes à Stephen Hawking, c'était les trous noirs. Vous nous rappelez ce que c'est ?
Alors, un trou noir, c'est un objet tellement massif qu'il déforme l'espace-temps au point que même la lumière ne s'en échappe pas. Voilà. Donc, c'est le piège absolu.
Ouais.
Et l'un de ses travaux les plus importants, c'est d'avoir démontré que ces trous noirs émettaient une radiation. On peut penser que c'est pas possible puisque la lumière ne s'en échappe pas. Eh bien, il a démontré que ça pouvait être le cas. On appelle ça la radiation de Hawking. Elle n'a pas encore été mesurée. Ça fait appel à une déformation du tissu de l'espace-temps. Ça tient debout. Le problème, c'est que si les trous noirs ont une radiation, ils peuvent s'évaporer. Et là, c'est en contradiction avec les modèles théoriques. Donc, c'était assez courageux de le proposer. Et puis, finalement, il a reconnu qu'il avait fait une erreur, que les trous noirs pouvaient ne pas détruire toute l'information qu'ils contenaient. C'est là qu'il a perdu un pari. Mais, au bout du compte, ça ne contredit pas sa propre théorie. C'est-à-dire, on voit le scientifique qui ne va pas rejeter quelque chose parce que c'est contraire à ses idées et qui est capable de dire « Là, je me suis trompé, mais là, j'ai raison.
» Un mot quand même de sa vie personnelle. On se balade entre les grandes théories scientifiques et la vie perso de Stephen Hawking. On racontait tout à l'heure le rôle majeur joué par sa femme dans les années 60-70, l'espoir, l'ambition qu'elle lui a insufflé. Ils vont avoir 3 enfants ensemble. Ils se séparent en 1990. Pourquoi ?
Et alors, son épouse l'a expliqué dans une interview. Elle a dit qu'en gros, leur mariage était un mariage à 4. Et c'est pas ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire qu'il y avait eux deux, la maladie et la physique. C'est-à-dire les travaux de Stephen Hawking. Et elle a même dit, je pense que même s'il n'y avait pas eu la maladie, on se serait séparés parce que Stephen avait en quelque sorte une maîtresse très encombrante, à savoir la physique théorique.
Et la notoriété qui n'était pas forcément facile à vivre. Et puis donc une infirmière, c'est ça. Il quitte sa femme pour son infirmière. Pardon de vous, oui, vous poser une question un peu people, Olivier Sangui.
Non, non, mais c'est vrai.
C'est des histoires d'amour, hein.
Je crois qu'il... Oui, tout à fait. Bah, quand il a épousé son infirmière, il a dit « j'ai épousé la femme que j'aime ». Et puis 10 ans plus tard, après, il divorçait. Ce qui est intéressant, c'est que quand le film dont vous avez parlé a été montré une première, Stephen Hawking était présent avec son épouse. Ils sont restés en bons termes. Et le film est basé plus sur le livre, d'ailleurs, de ex-Madame Hawking que sur celui de Stephen Hawking. Sa seule remarque, ça a été « il n'y a pas assez de science dans le film », alors que sa femme disait « il n'y a pas assez d'émotion ».
Un dernier mot, Olivier Sangui, rapidement, il va forcément manquer au monde scientifique. Il y a une autre rockstar de la science qui peut remplacer Hawking en termes de notoriété, de popularité.
Quelle question difficile. Bon, moi, j'aime bien un autre physicien qui est dans, qui travaille pour la théorie des cordes, qui est Brian Greene, qui est un Américain qui est moins connu, qui fait aussi d'excellents livres. Aux États-Unis, vous avez Neil deGrasse Tyson qui s'occupe du planétarium de New York. Mais en fait, on va bien voir, c'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est d'avoir des physiciens extrêmement compétents et qui aussi sont capables de vulgariser. Bon, dans le monde francophone, on a une référence incontournable qui est Hubert Reeves.
Bien sûr qu'on a reçu dans cette émission avec grand plaisir. Merci beaucoup Olivier Sangui.
Merci Olivier.
Et je signale qu'à la Cité de l'Espace de Toulouse, on peut aller voir l'exposition Astronautes pour ressentir et comprendre la vie des astronautes. Elle est ouverte jusqu'au 4 novembre.
Vous écoutez RTL.